Et c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Baptiste, bonjour à tous.
Ce matin, Julie, l'enquête secrète de deux chercheurs sur les responsabilités de l'État syrien dans le massacre de sa population.
Oui, l'un de ces deux chercheurs s'appelle Ugur Umit Ungur, chercheur de l'université d'Amsterdam à l'Institut d'études sur la guerre, la Shoah et le génocide. Il est à Paris au début de l'année 2019 pour une conférence et il voit s'approcher un activiste syrien qui demande à lui parler seul à seul. Ce militant lui remet 27 vidéos qui viennent de lui être envoyées de Syrie par un jeune milicien pro-Assad et qui montrent comment le 16 avril 2013, à Tadamon, la banlieue sud de Damas, 288 civils, dont 7 femmes et 12 enfants, ont été sommés de descendre d'un bus, la bouche et les yeux bandés, se sont mis à courir quand les soldats leur ont dit que des snipers les visaient et ont fini par tomber dans une fosse creusée là exprès. Chacun a été ensuite exécuté de sang-froid par des soldats visiblement blasé. Bonjour Mustapha Alapsi.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur indépendant, vous travaillez sur les questions du récit du conflit syrien. Vous collaborez avec la Hof University de Berlin et vous êtes membre de la New University in Exile Consortium. Et vous vous êtes longuement entretenu avec les deux chercheurs à l'origine de ce travail, donc Ugur Umit Ungur et sa collègue de l'université d'Amsterdam, Ansar Shaoud. Sur leur démarche pour commencer, qu'ont-ils fait de ces 27 vidéos une fois qu'ils les ont eues en leur possession? Ils avaient plusieurs possibilités. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi à ce moment-là de ne pas les rendre publics?
En fait, en tout cas, dès le départ, ils ne pouvaient pas les rendre publics pour la simple raison qu'il y a la source qui a fourni ces vidéos. Elle était encore en Syrie, elle a quitté la Syrie fin 2021, donc ça c'est la simple raison. Et deuxièmement, pour permettre une enquête qui va au-delà de ce qu'on a d'habitude comme écho suite à la révélation de ce type de vidéo, à savoir la dénonciation que cet auteur, ce criminel, ce membre des services de renseignement ou de l'armée soit révélé par des activistes syriens, et puis il disparaît, l'auteur disparaît, on n'a plus de nouvelles, on ne sait plus rien. On sait que c'est le régime syrien, mais on n'en sait pas plus, on risque de ne pas connaître les services responsables, ou même le régime syrien a la possibilité de nier la responsabilité ou l'authenticité des documents, par exemple. Mmh. Alors là, il y a eu une enquête qui est allée jusqu'à la désignation de la personne, de sa branche, de ses collègues, la date... ils ont réussi à trouver la rue, ils ont réussi à trouver l'adresse, ils ont réussi également à trouver la connexion entre plusieurs branches entre milices loyalistes du régime et les renseignements militaires. Donc aujourd'hui, cette fois-ci, ils sont allés beaucoup plus loin que d'habitude, et ça, c'était une grande réussite.
Voilà, donc on peut prendre les différentes étapes de l'enquête les unes après les autres. Ils ont donc décidé, ces deux chercheurs, d'intégrer ces vidéos à un projet universitaire sur la violence de masse en Syrie. Ils en informent seulement la police néerlandaise, qu'ils sont en possession de ces vidéos. Est-ce qu'ils, vous dites qu'ils reconnaissent la rue, mais pas tout de suite. Au départ, il faut identifier le lieu où sont tournées ces vidéos et les auteurs de ce massacre, ça n'est pas une évidence.
Oui, en fait, il y avait une fausse piste au début sur un minibus. Ils sont trompés pendant un an sur le lieu du massacre. Ils pensaient toujours que c'était les banlieues sud de Damas, mais ils appelaient ça le massacre Yelda. C'est une banlieue à quelques kilomètres du vrai endroit du massacre. Jusqu'à ce que des Syriens du sud de Damas, parce qu'ils ont pris des séquences, ils ont coupé des séquences des vidéos, ils les ont envoyées à des Syriens, bien sûr, discrètement, via des activistes à Damas, jusqu'à ce que des gens du sud de Damas reconnaissent la rue de Tadamon et parlent même de la fosse, parce que cette fosse, il paraît, elle était connue, même si personne n'en a parlé depuis. Mais une fois les images sont sorties, les gens se sont rappelés et ont commencé à raconter des choses qui n'ont pas voulu raconter avant, on ne sait pas pourquoi. Mais ils ont mis un an à peu près pour savoir quelle était la rue du lieu du crime, et à savoir c'était la banlieue sud de Damas.
Alors Mustapha Alapsi, pendant ce laps de temps, la chercheuse syrienne de ce binôme utilise un faux compte Facebook pour approcher les auteurs, les professionnels de cette violence de masse. Comment est-ce qu'elle s'y prend?
Oui, en fait, ça peut nous induire en erreur, parce que la première chose on va dire, c'est qu'elle disait que c'était une chercheuse syrienne installée aux Pays-Bas qui étudiait l'armée syrienne depuis le début du conflit et les raisons de la réussite de l'armée syrienne. Ce qui peut nous induire en erreur, c'est qu'elle a choisi un profil d'une fille alawite, ça veut dire c'est la confession du président Bachar al-Assad et de l'appareil, souvent les officiers de l'appareil de sécurité syrien également, ce qui peut donner au conflit syrien un visage bien sûr un visage un peu polarisé par rapport aux communautés, etc., etc. Et donc elle s'y est prise comme ça. Elle a réussi à convaincre pas mal de personnes, mais ça a duré. Elle a commencé cela en 2018.
Ah, donc on vous a perdu, Mustapha Alapi. Vous allez nous raconter comment cette enquête a été menée. Mais c'est vrai que sur Facebook, beaucoup d'affiliés au régime syrien sont sur ce réseau social, deviennent amis avec cette Anna Sh. C'est comme ça qu'elle se présente sur les réseaux, SH avec un point, qu'ils soient militaires, agents du renseignement ou membres des milices loyalistes. On vous a retrouvé, Mustapha Alapi. Donc elle retrouve, après un an et demi de recherche, le profil de l'homme que l'on voit sur la vidéo tuant de sang-froid, une par une, 41 personnes tombées dans la fosse. Et il se parle donc. Qui est-il? Quel est son profil?
Alors lui, c'est un agent des services de renseignement militaire. Ça veut dire c'est quelqu'un à la base qui s'est engagé au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Défense, et puis il a été affilié ou il a été engagé dans les renseignements militaires. On peut se demander pourquoi il a un compte Facebook. Mais à la base, lorsqu'on travaille dans les services de sécurité en Syrie, on ne donne pas son vrai nom. Donc il peut avoir le nom de Abou Ali, de Abou quelque chose. Et là, il fallait juste compter sur son image. Elle a réussi à lui parler, mais elle a mis 6 mois jusqu'à ce qu'elle puisse enregistrer des longs appels. Ils n'ont pas parlé du massacre de Tadamol, mais il lui a affirmé qu'il a tué tellement de gens, il ne se souvient même pas du nombre de ces personnes qu'il avait tuées. Et il était en train de venger son frère et il était bien fier de ce qu'il avait fait.
Donc c'est un sous-officier des renseignements militaires syriens. Est-ce que les chercheurs réussissent pour autant à prouver que ce massacre participe d'une politique d'État? Est-ce qu'ils peuvent remonter la chaîne de commandement pour mettre directement en cause et sans réfutation possible le régime syrien?
Oui, en fait, il faut distinguer entre deux types entre guillemets d'inculpation, parce que inculpation, justice, c'est une chose, et inculpation, où on peut désigner sans équivoque que c'était bien le régime syrien, c'était bien ce service de renseignement ou un ensemble de services de renseignement qui remonte jusqu'à Bachar al-Assad et jusqu'au Bureau de Sécurité Nationale. Là, pour le récit syrien et pour l'écriture de l'histoire de la Syrie, et il n'y a plus aucun doute, on peut établir cette chaîne. Surtout que Ansar aussi, là, pour revenir à l'enquête, Ansar, elle a fait des entretiens avec à peu près 200 personnes, et pas seulement Amjad Youssef, celui qui a assassiné les gens sur la vidéo Tadamol. Donc, elle a réussi à s'entretenir avec des membres des milices loyalistes, qui ont un statut différent des renseignements de l'air, des membres réguliers de l'armée et des renseignements militaires. Donc évidemment la chaîne est bien établie. Elle a même parlé avec des gens plutôt haut placés. Elle a connu des histoires qu'on connaissait pas du tout sur les services de renseignement syriens et les forces de sécurité syriennes. Elle a connu les personnalités mythiques comme le Hitler de Syrie, qui appartient aux forces, aux milices loyalistes, mais elle n'a pas réussi à lui parler. Elle a connu un autre qui se vantait d'avoir tué 30 000 civils. Alors c'est un nombre exagéré, mais ces soldats se vantent aussi de ces chiffres, etc. Elle a réussi à avoir pas mal d'informations sur ce réseau, sur ce milieu et sur les différents organes qui participent au crime de masse organisé, justement quelque chose de commandé par l'État et quelque chose qui est très typique du conflit syrien. C'était pas seulement un conflit entre des partis militaires, mais il y a le régime syrien qui commande des violences contre les civils, en particulier comme une cible propre.
Voilà, l'une des conclusions, pardon, Mustapha Alapi, c'est de dire, c'est ce chercheur Ougur Oumitungor qui dit qu'il est réducteur de ne parler que de guerre civile en Syrie, notamment parce que si l'un des assassins dans la vidéo était bien alaouite, donc la confession, comme vous le disiez tout à l'heure, est du président et du système d'État, celui qui filmait était druze et leur supérieur sunnite, et le supérieur de ce supérieur était lui aussi alaouite. Donc il est donc réducteur de ne parler que de guerre civile, mais pourquoi ces deux chercheurs travaillent sur l'échelle de leur travail sur des micro-espaces, que ce soit citadins, provincial, de quartier, de village? C'est pour montrer quoi?
Oui, justement, pour qu'on soit pas induit en erreur, comme j'ai essayé de le dire au début, en fait, moi, par exemple, je viens d'Alep. Si vous me dites que ce sont les Alaouites qui exécutent les sunnites, je vous dirais, oui, mais nous, à Alep, on n'a pas d'Alaouites. Donc, lorsque quelqu'un travaille sur la vie de Homs, par exemple, qui est très variée au niveau des confessions, au niveau des identités, ou lorsqu'on travaille sur Damas, on peut comprendre un peu mieux ce qui se passe et que le régime, en fonction du tissu social d'un endroit, d'un micro-espace, il suit une politique ou des tactiques particulières pour alimenter un peu l'opposition entre ces différents groupes et venir à la fin achever le groupe qui n'a pas obéi, par exemple. Et on peut faire recours au vocabulaire de la guerre civile dans les zones mixtes. Mais comme l'affirment les chercheurs, il faut le décrire dès le départ comme une politique voulue d'escalade. En fait, le régime, au début du conflit, a cherché l'escalade. Il a voulu que ce mouvement soit violent pour justifier par la suite des actes de vengeance. Et on peut pas connaître ces mécanismes. Ou ces dynamiques sans prendre en compte qu'il y a des micro-espaces. Sinon, même pour les Syriens, il serait compliqué de comprendre les détails de ce conflit ou les étapes de l'escalade dans ce conflit. C'est pour comprendre que à chaque fois qu'il y a un tissu social particulier, il y a une politique différente et il y a eu des résultats différents, un vocabulaire différent. Et la révolution, par exemple, Ansar qui vient de Homs, elle m'a expliqué que à Homs, dans sa ville, même juste avant que les manifestations commencent dans sa ville, elles avaient lieu ailleurs, les manifestations, mais avant que ça arrive dans sa ville, il y a eu des kidnappages entre sunnites et alaouites, ce qui a donné un visage de guerre civile très rapidement dans la ville, et beaucoup de gens ont eu peur et ont été même polarisés et remontés les uns contre les autres. Donc prendre le micro-espace permet de décrire les différentes particularités et même les différentes politiques menées par le régime syrien pour arriver à ses fins, à savoir la guerre civile.
On arrive à la fin de cet entretien, Mustapha Alabzi, avec notamment au centre une constante en revanche au centre de ce jeu macabre, les Moukabarat, les agents secrets présents absolument partout dans la société syrienne. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Mustapha Alabzi. Je rappelle que vous travaillez sur les questions du récit du conflit syrien et qu'on peut lire votre article sur toute cette enquête menée par ces deux chercheurs de l'Université d'Amsterdam sur le site theconversation.fr. Merci beaucoup.
Merci les enjeux, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouveaux enjeux territoriaux à 6h10 et de nouveaux enjeux internationaux à 6h45.
France Culture, l'esprit d'ouverture.